Et mon enfant casse, fait du mal, est-ce ça à moi, parent, de payer? C'est la question qui est soulevée par le gouvernement qui prépare un projet de loi pour encadrer la délinquance des mineurs, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Et l'idée, eh bien, c'est de sanctionner de façon plus dure encore les parents. La philosophie de ce texte avait déjà été fixée lors du discours de politique générale de Gabriel Attal en début d'année.
Cela fera partie de la révision de l'échelle des sanctions dans nos établissements scolaires que j'évoquais il y a un instant. Dès le plus jeune âge, il faut en revenir à un principe clair. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter.
Bon, alors en l'occurrence, c'est tu salis, tu défies l'autorité, c'est papa et maman qui vont payer. C'est un peu l'idée de ce projet de loi donc qui est en cours de préparation. Vous allez nous en expliquer les grandes lignes. Lisa, que pourrait changer cette loi sur la responsabilité des parents d'enfants délinquants?
Déjà, actuellement, il y a déjà des sanctions dans le code pénal pour les parents de mineurs délinquants. Si un parent se soustrait sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur, il risque 2 ans de prison. Sauf que la loi, telle que je vous l'ai citée, elle est assez floue, du moins l'appréciation de sa définition est plutôt subjective. La loi que prévoit le gouvernement souhaite affiner ses termes, et vous en avez parlé, Perrine, les termes de Gabriel Attal, tu casses, tu répares. D'abord, cette nouvelle loi prévoit notamment de durcir les sanctions. La peine serait 3 ans de prison plus 45 000 euros d'amende si le parent est jugé récidiviste. En plus, il pourrait y avoir parfois des travaux d'intérêt général. Et deuxième cas de figure, si les parents sont absents pendant les autres audience d'assistance éducative, la sanction c'est une amende ou un stage de parentalité. La loi envisage aussi la création d'une somme d'argent versée à une association de défense de l'enfance.
Et les mineurs délinquants dans tout ça?
Les mineurs âgés de moins de 13 ans ne peuvent pas être reconnus coupables car la justice estime qu'ils ne sont pas conscients de leurs actes. Ils peuvent être obligés de respecter certaines mesures éducatives. Les sanctions pénales concernant les mineurs âgés de plus de 13 ans, de 13 à 16 ans. Actuellement, la loi prévoit que les mineurs délinquants n'aient de peine qu'à titre exceptionnel, peine prononcée par un juge des enfants, tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs. Pour les sanctions plus clémentes, des stages de citoyenneté ou de sensibilisation peuvent être donnés. Ils peuvent aussi écoper d'une amende ou d'un avertissement judiciaire. Et les plus de 16 ans peuvent avoir toutes ces sanctions et des travaux d'intérêt général. Et avec la prochaine loi, le texte ajoute que le contrôle judiciaire des mineurs délinquants serait fait dans des accueils de nuit dans les locaux de la protection judiciaire de la jeunesse.
Merci Lisa pour ces explications. J'accueille Mourad Batik. Bonsoir. Vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris. Et bonsoir Didier Gonzalez. Vous êtes maire Les Républicains de Villeneuve-le-Roi dans le Val-de-Marne. On vous a invité parce que sanctionner les parents, c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Vous l'avez fait aux fêtes de fin d'année, l'année dernière, pour une famille d'un jeune délinquant, d'un jeune émeutier. Racontez-nous.
Bon, en deux mots, c'est les choses se sont passées comme ça. C'est qu'en définitive, lors des émeutes, la mairie a été incendiée. Et le lendemain, le poste de police a été attaqué. Et lors de cette attaque du poste de police, eh bien, un des délinquants, des émeutiers, donc a pu être arrêté. Et donc, on a pu l'identifier clairement. En l'occurrence, c'était pas un mineur. Il n'était pas de famille monoparentale. C'était une famille qui vivait dans un HLM, mais qui n'était pas famille monoparentale. Et donc, en l'occurrence, on a cette famille qui, quelques mois plus tard, à l'occasion de Noël, est venue réclamer une aide pour fêter Noël.
C'est un chèque de Noël que vous offrez aux familles.
Un chèque de Noël qu'on offre aux nécessiteux, pas grand-chose. Là, en l'occurrence, c'était 60 euros. Et donc, nous avons estimé que...
Donc vous voyez le nom apparaître.
Bah, exactement.
Et à ce moment-là, vous dites que c'est pas possible.
Et qu'à ce titre, il n'était pas possible dans la mesure où ce majeur délinquant avait écopé seulement de 6 mois avec sursis. Il n'était pas envisageable de lui offrir
donc vous
un
avez
cadeau
reçu
de Noël. Et donc, on a reçu la famille. Parce que moi, j'ai reçu la mère, bien sûr, parce que je voulais pas qu'il y ait de doute. Qu'il s'imagine pas que son dossier soit perdu. J'ai reçu la maman en lui disant très clairement qu'elle n'aurait pas cette aide parce que si ça nous semblait pas convenable d'attribuer une aide de Noël.
Et elle a réagi comment? Elle a compris?
Dans un premier temps, elle a nié. Ensuite, elle est partie en disant oui, mais je recommencerai pas. Enfin, c'est pas elle, c'est le fils. Mais enfin, bon, voilà. on a manifestement, enfin moi je me voyais pas en plus donner, alors même que c'est l'argent des contribuables qui est impliqué, que les sommes sont colossales suite à l'incendie de la mairie et du poste de police, et en plus donner l'occasion de fêter Noël alors qu'il y a un seul enfant. Voilà,
c'était la question que j'allais vous poser, il y a un seul enfant dans cette famille.
C'est ça. Donc en fin de compte, le cadeau de Noël c'est pour lui. Il nous il y avait un problème de compréhension,
J'entends, mais si le jeune était majeur au moment des faits, pourquoi faire endosser la responsabilité aux parents? Parce que là, en l'occurrence, bon, il est majeur vacciné, c'est lui qui est responsable entièrement.
Oui, c'est vrai, mais pour Noël, c'est plutôt un cadeau pour l'enfant, non? Bon, donc là, en l'occurrence, c'était pour lui, voilà. Donc non, voilà.
C'est cohérent. Ouais, c'est cohérent.
Ça me semble être cohérent. En tous les cas, quand on a regardé l'impact, tous les gens concernés, tous les habitants de Villeneuve-le-Roi ont trouvé ça parfaitement cohérent.
Voilà. Bon, après, on sent aussi qu'il y avait une dimension symbolique, un message à faire passer, parce que ce que vous disiez, c'était 60 euros. Vous n'avez pas supprimé non plus des allocations ou des.
Et puis, ce n'était pas une aide légale. Hein.
C'est
un petit geste que nous faisons exceptionnellement pour quelques-uns qui sont particulièrement dans le besoin. Vous voyez, eh bien, là, en l'occurrence, c'est pas lui qui est dans le besoin, c'est la commune qui l'est, dans la mesure où nous avons des sommes colossales maintenant pour réparer les dommages causés par cet individu.
Votre récit, il est intéressant parce qu'il illustre aussi la volonté d'une partie de la population qu'on serre la vis, et puis tout ce débat qu'il y a eu autour de l'autorité parentale, de la restauration de l'autorité parentale et de la responsabilité des parents, en l'occurrence dans le cadre des mineurs. Il y a une question qu'on peut se poser, Mourad Batik, et Elisa l'a soulevée tout à l'heure, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ça existe. La loi, c'est l'article 227-17 du Code pénal, permet en fait à la justice de condamner un parent défaillant à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Pourtant, c'est pas appliqué. Pourquoi c'est pas appliqué?
C'est complètement appliqué. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que le parent, il va être condamné quand il va exposer son enfant à une insécurité sur la moralité, sur la santé, sur sa sécurité. C'est en ça que le droit condamne le parent. Là, ce qu'on vous demande, c'est complètement autre chose. C'est complètement autre chose et on vous a parlé de cohérence. L'invité vient de vous parler de cohérence. C'est parfaitement incohérent. C'est incohérent juridiquement, c'est incohérent pénalement, c'est incohérent philosophiquement. L'article 121-1 du Code pénal dispose que nul n'est responsable que de son propre fait. Et heureusement, sociétés démocratiques,
c'est ça que j'arrive pas à comprendre.
Chacun est responsable de son propre fait.
Mais c'est ça que j'arrive pas à comprendre. La responsabilité pénale est par définition personnelle. Alors comment se fait-il que cet article existe ?
L'article, il existe quand le parent, il expose son enfant à une insécurité. C'est-à-dire qu'un parent, il va être finalement si peu enclin à être parent qu'il va exposer son enfant à des risques sur la moralité, sur la santé, sur la sécurité, qui, in fine, va conduire à ce que l'enfant puisse devenir délinquant. Donc là, le parent, il a une responsabilité première. Là, ce qu'on vous dit, c'est peu importe que le parent se comporte bien ou mal, puisque ce que vient de dire monsieur le maire, il n'a pas dit que le parent s'est mal comporté. Il a dit l'enfant s'est mal comporté, donc j'ai sanctionné le parent. Et ça, on ne peut pas accepter ce genre de philosophie, parce que cette philosophie, elle est dangereuse. D'abord,
après, les conséquences ne sont pas les mêmes, parce que là, on parle de 60 euros. Là, on va être sur des dizaines de milliers d'euros d'amende et un risque de prison.
Le principe reste le même. Vous avez philosophiquement, pourquoi est-ce que cet article, pourquoi est-ce que le législateur, il a décidé de créer cet article sur la responsabilité pénale qui n'est qu'individuelle, quand lui-même parlait d'une volonté, d'une autonomie de la volonté. Vous savez, vous êtes probablement il y a beaucoup de parents autour de ce plateau, il y a beaucoup de parents qui nous regardent, qui ont peut-être 1, 2, 3 enfants, ils le savent, parfois il y a des très bons parents, et puis on tombe sur un enfant qui est moins enclin à écouter, qui est moins enclin à être dans la loi, et je vous rassure, ça ne touche pas que les catégories socio-professionnelles dont on peut imaginer qu'elles sont ici ou là. Il y a des CSP+, qui eux aussi sont confrontés à des enfants qui ne marchent pas droit, qui ont des difficultés, qui peuvent être condamnés. Ça arrive même parfois à des hommes politiques, à des enfants d'hommes politiques, même peut-être à certains membres du gouvernement qui, eux aussi, ont vu leur enfant être traduit devant des institutions judiciaires. Vous voyez ce que je veux dire en une phrase, pour reprendre la petite phrase de la fable. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Ça n'est pas possible. On ne peut pas agir comme ça en imaginant que si on ne condamne pas l'un, on condamne l'autre.
On comprend. Mais là, c'est pas le parent qui est condamné, c'est bien l'enfant.
C'est l'enfant qui est condamné. Mais voyez,
il a fait une bêtise, il n'a pas de cadeau.
Mais exactement.
Alors non, parce que là,
c'est les parents qui touchent.
Là, c'est les parents. C'était les parents qui devaient avoir ce chèque cadeau.
Mais pour l'enfant,
pour l'enfant, pour eux, pour l'époux, pour le conjoint. Et puis surtout, ce que vous avez dit, qui est à mon sens extrêmement choquant, vous avez dit, il a eu seulement 6 mois de sursis, donc on a décidé finalement de ne pas donner ce chèque. Donc vous contestez une décision judiciaire avec un dossier auquel vous n'avez pas eu accès, et donc vous vous mettez quelque part au-dessus d'une décision de justice en disant ça a été mal jugé. Moi, maire, j'estime que ça a été mal jugé, donc je vais prendre mes dispositions pour contraindre plus.
J'ai l'impression qu'il n'a pas dit ça, le maire.
Non, pas du tout. J'ai mis tous les faits les uns à la suite des autres. C'est-à-dire qu'on a une personne qui n'a pas été condamnée en définitive ou si peu.
Ah bah si, elle a été condamnée.
Ou si peu, puisqu'il n'a eu que 6 mois de sursis.
C'est bien ce que je dis. Alors donc, même une décision judiciaire. Donc c'est non, bien, c'est bien évidemment.
Attendez, monsieur. Nous avons eu un procureur qui a demandé 2 ans. Bon, d'accord. Bon, la personne a été jugée. Elle a eu 6 mois avec sursis, alors qu'elle a attaqué un poste de police dans des conditions invraisemblables.
Donc vous contestez une décision judiciaire.
Nous l'avons tellement contesté que nous avons fait appel. Bon, donc nous avons fait appel et dans le même temps, nous avons ce dossier qui se présente.
Bon, alors si vous êtes partie civile, vous pouvez pas faire appel.
Et la personne.
Le maire.
Non, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas avocat, mais procureur, vous.
Ah ben non, bon, pas du tout. Donc je vous explique simplement qu'en tant que partie civile, en qualité de partie civile, vous n'avez pas la possibilité de faire appel.
Permettez-moi d'avoir un jugement sur une affaire qui s'est produite et qui a été gravissime, incendie de ma mairie et attaque du poste de police où de l'essence a été jetée alors même que le personnel était à l'intérieur.
C'est évidemment extrêmement grave. Donc, il y a une décision de justice qui a été rendue.
Oui, non mais enfin, moi je vous ai écouté gentiment. Voilà, vous me laissez développer
la suite. Mais vous contestez des décisions judiciaires, c'est grave.
J'ai quand même le droit de faire appel, oui ou non?
Non,
oui.
Vous n'avez pas le droit.
Si, j'ai fait appel.
Non, partie civile.
Si.
Donc, j'ai demandé
au procureur de faire appel.
On va pas vous mettre d'accord ce soir, mais en tout cas, le débat que vous avez tous les deux, il illustre bien à quel point ce sujet il est épineux, ce sujet il est délicat, ce sujet il est sensible, parce que il y a une question philosophique aussi derrière. Est-ce aux parents de payer pour les enfants et en même temps les outils qui peuvent être mis en place par le gouvernement pour effectivement restaurer ce problème d'autorité parentale dont on a énormément parlé depuis les émeutes, et on aura bien évidemment l'occasion de revenir sur ce sujet puisque ce projet de loi il devrait être examiné a priori avant l'été.